Bonjour chez vous, chez les autres aussi. Vous pouvez rentrer, allez-y, venez tous, bande originale spécialité, vous êtes les bienvenus. Ce matin, Anne Parillo, Jean-Paul Rouve, Olivier Barou, Laetitia Doche, Félix Moati, Isabelle Mergot, Gérard Jugnot, Gwendoline Hamon et la bande au grand complet. Le meilleur de la bande originale, c'est parti. Excellent été à vous.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Since I've been loving you, Led Zepp et cette voix. Alors, je sais pas ce qui vous touche le plus, c'est la musique, c'est la voix,
c'est les deux,
paroles.
C'est le blues. C'est le blues, c'est le move et c'est lui qui est à la fois d'une sensualité et d'une ambiance planante comme ça, et avec les hurlements et les cris derrière et les déchirements. C'est un mix que je trouve totalement.
Et on écoute ça dans quel contexte? Dans les années 70.
En disant, moi ça me fait rêver ça.
Ouais. Et 77, justement, pour reprendre cette année, c'est votre premier film, première apparition au cinéma, Un amour de sable de Christian Lara. Et là encore, c'est, je crois que vous étiez en vacances, comment ça...
Oui, alors c'est étrange parce qu'on parle de ce film comme un premier film. En fait, mon premier film, c'est L'Hôtel de la Plage. Et Un amour de sable, c'est effectivement, je suis sur le lieu de mes vacances avec mes parents, j'ai 13 ans et demi. Et Jacques Weber tourne ce film, Un amour de sable, à Belle-Île-en-Mer, sur la plage où je suis en train de me baigner. Et je vois avec une de mes amies, sur le tournage, les assistants à la mise en scène qui essayent de faire rentrer une vache dans un camion et qui ne veulent absolument pas y aller. Et donc, intrigués, on se dirige vers l'événement.
Vers le spectacle.
Vers le spectacle. Et je rencontre Jacques. Et très vite, on s'est liés d'amitié. Et il m'a dit, tu seras actrice. Et j'ai dit, pas du tout, je veux être avocate de la défense. Et c'est dans ma chair. Et actrice, jamais ça me viendra à l'esprit. Il m'a dit, tu verras, tu changeras, et quand tu changeras, tu iras au cours Florent, de ma part. Et ça s'est arrêté là, et j'ai suivi le tournage pendant l'exécution du film. Et effectivement, il m'a dit, on va juste te faire faire une apparition, tu vas comprendre ce que c'est. Et il a demandé au metteur en scène de dire, bah, voilà, tu lui écris un passage avec un chat dans les bras, elle arrive, elle va chez le vétérinaire. C'est tout. Donc je suis sur le trottoir avec un chat dans les bras, et je sonne, et je fais bonjour, mon chien est malade. Et donc ça, c'est ce que je fais dans Un amour de sable. Et ça m'a pas plus titillé que ça à l'époque. Et effectivement, j'ai arrêté la danse. Ma mère m'a dit, alors tu vas faire du théâtre. Je suis allée dans un cours d'un professeur de conservatoire où j'étais toute seule. Et au bout de 3 mois, il m'a dit, non, mais il faut que vous alliez dans un cours, dans un groupe. Vous êtes faite pour ça. Je suis allée au cours Florent de la part de Jacques. Et tout s'est enchaîné comme ça.
C'est beau ça, Jacques Weber qui déclenche en fait une vocation.
Oui, et on a fait un court-métrage ensemble où il jouait mon mari. Et ça m'a beaucoup touchée.
En 1981-83, vous écoutiez... Les Floyd, Another Brick in the Wall. Tout ça, c'est très rock progressif, hard rock pour Led Zepp, les inventeurs. Les Floyd, là aussi, quand vous entendez cette musique, vous voyez à une période précise de votre vie un endroit.
J'aime ça qu'il crie à ma place, ça me fait du bien.
Hey, teacher!
Oui, ouais, c'est ça. Il se rebelle, il se révolte, il révolutionne et ils sont en colère à ma place. Et donc, quand je les entends, je me dis, ben voilà, ils le font pour moi.
Parce que vous êtes jamais en colère?
Si. Mais eux, ils avaient l'influence. Oh, contre la société, contre, comme Mrs. Robinson, c'est-à-dire contre la vie standard ou les normes qu'on nous impose.
Et 80-83, c'est ce qu'on appelle la période Delon. Vous jouez deux films sous la direction d'Alain Delon en tant que réalisateur pour La peau d'un flic en 81 et Le battant en 83. Quel souvenir vous gardez de ces tournages sous la direction d'Alain Delon? On le connaît... comme le comédien.
La frayeur.
Ah bon?
Ah oui, la frayeur, parce qu'il est très tyrannique, c'est Alain, quoi. Tyrannique, exigeant, difficile, scorpion.
Bonjour,
oui, je sais que vous êtes scorpion, on l'a dit.
Bah, c'est
bah ouais.
Ah bah oui, mais bah donc
on
le scorpion.
Tous les scorpions, bah oui, enfin.
Ah, si,
mais pour l'instant, la description d'Anne Parillo, ça convient tout à fait. Ah, vraiment. Mais vous avez un côté sympathique, Nagui. le week-end.
Non, non, mais ils sont séduisants, les scorpions. Et donc, on se laisse prendre, on se laisse se soumettre, on se laisse piéger. Mais non, l'expérience avec Alain était formidable. C'est juste que, comme c'était effectivement ses premiers films à la mise en scène, il avait une exigence et une... Et puis, en plus, il me faisait faire un personnage qui était plus âgé que moi. Il voulait absolument me rendre femme, alors que je n'en étais pas encore une. Et c'était ultra difficile pour moi de correspondre à l'image qu'il cherchait, mais ça s'est quand même très bien passé.
Et puis j'imagine qu'on est impressionné aussi parce que vous êtes toute jeune.
Et puis j'étais mes classes quoi, de la même façon que j'ai joué la fille de Jeanne Moreau ou j'ai joué avec Catherine Deneuve. C'est-à-dire, toute cette période-là, c'est mon apprentissage, c'est mes classes, c'est mes esquisses, et j'ai eu des maîtres pour ça, donc ça a été un privilège pour moi.
La bande originale, le best-of. Sur France Inter.
Toc-toc, c'est qui?
Qu'est-ce qu'on s'est
marré? Tu joues pas?
C'est moi!
Voilà! Toc-toc, c'est qui?
C'est moi!
Voilà! Tu fais ça.
Toc-toc?
Non.
Non.
C'est qui?
Non! Ah si, ça t'as raison, vas-y. Si t'as raison, vas-y, attends, vas-y, on le refait, t'es prêt?
Eh oui, je suis prête.
Alors, t'es prête, t'es prête, vas-y.
Oui. C'est qui?
C'est moi! À toi? Vas-y!
Non, bah non!
T'as compris le jeu ou pas? T'as compris? Vas-y.
Je pense. C'est qui?
C'est moi! Voilà.
Non, mais ça peut durer 10 minutes.
Ah, bah oui,
mais génial.
Bah
c'est le cas, non,
mais
film,
génial,
c'est le cas.
Ouais. Génial. Et Nicolas,
je t'en ferai peut-être.
Nicolas Maury, qui est complètement désespéré.
Je préviens pas.
J'imagine, il y a des auditeurs, ils doivent regarder leur poste en disant qu'est-ce qui se passe?
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. Qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports.
Et là, c'est la rencontre avec les Robins à ce moment-là.
Ben oui, d'abord, c'est la rencontre avec Isabelle Nanty au cours Florent.
Voilà, qui était notre prof à PEF et à moi. C'est comme ça qu'on rencontre Isabelle, prof de première année.
Ouais.
Et puis après, par l'intermédiaire de PEF, je rencontre Marina, Maurice et ensuite Pascal et Élise.
Et pourquoi Brassens, pardon?
Bah, pour le thème de la chanson, les copains d'abord, parce que c'est les Robins.
D'accord.
Et puis c'est vrai que c'est une période où j'écoute beaucoup Brassens. Et j'écoute Brassens et je l'écoute aussi beaucoup dans les interviews.
Ouais.
J'écoute beaucoup d'interviews de Brassens. Et c'est le seul mec, je trouve, quand t'écoutes toutes ces interviews, qui ne dit jamais de conneries. Voilà.
J'ai pas toujours qu'il peut se tromper.
Il dit, c'est toujours tellement humaniste, c'est toujours intéressant ce qu'il dit. Jamais je me suis pris à me dire, oh non, là, quand même, t'exagères. Alors que d'autres artistes que j'adore, où je trouve des fois ses limites, et lui, c'est, j'aurais tellement aimé connaître ce mec.
Et dans ces années-là, vous êtes à Paris, et pour manger, en fait,
oui.
Vous faites équipe avec PEF, je crois, sur le parvis de la Défense.
On fait homme sandwich avec PEF sur le parvis de la Défense.
Ça devait être magique.
Bah ouais, on était en hiver, mon Noël, il faisait un vent de gueux.
Mais je pense surtout que les panneaux que portaient...
C'était pour le salon des antiquaires, je me souviens.
C'était pas Maurice qui portait.
Non,
Maurice n'aurait pas pu porter le panneau.
Pas Maurice. Je vois pas le panneau.
C'est ça.
Voilà.
Mais
PEF, il devait se prendre les pieds dedans ou tomber.
Il y avait du vent, le panneau, il s'envolait et tout. C'était... Mais on se marrait bien, c'était une bonne époque.
Et puis vous donniez des cours particuliers de maths, je crois.
Et je donnais des cours de maths aussi. J'habitais pas loin de la maison de la radio. J'avais une chambre de bonne ici, avenue de Versailles.
Parce que vous êtes bon en maths?
Mais non. C'est pas le problème, je vois pas le rapport, monsieur. Il était en seconde, l'élève.
C'est génial.
Et je lui donnais des cours de maths. Et donc il arrivait, il me disait, voilà, je dois travailler là-dessus aujourd'hui. Donc je lisais le truc, et 9 fois sur 10, je ne comprenais pas. Et donc je lui disais, ok, je vais t'expliquer. Pour comprendre ça, il faut d'abord revenir en arrière. Et donc, hop, j'allais leçon en arrière jusqu'à un truc que je savais faire un peu. Et j'ai fait ça pendant un an. C'est honteux.
C'est trop cri. Ouais, mais enfin, il fallait bien vivre.
Hein. Ah, il faut bien vivre, monsieur.
Et votre premier, et votre premier téléfilm, ça intervient au bout des 3 premières années, je crois, des cours Florent.
Ouais.
Et vous vous retrouvez avec quand même Marina Golovin.
Oui, exactement. À Lille, c'était un téléfilm. Et ma première, j'avais jamais tourné de ma vie. Donc, t'imagines, t'es stressé. Et ma première scène, jouer son fiancé. Et on était sur un canapé et je devais essayer de l'embrasser et lui mettre la main sur le sein. Mais t'imagines, et elle me mettait une claque. Et mes premières scènes, mais c'est horrible. Tu te dis, mais je vais faire un autre métier, t'as envie de rentrer sous terre.
Et pourtant, vous l'avez fait.
Et pourtant, je l'ai. Ah bah, bien sûr, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais on a fait plusieurs prises et tout.
C'est dommage.
Non, j'étais stressé. Hein.
Olivier Barraud, à ce moment-là, vous écoutiez-vous Nirvana?
Ouais.
Ah ouais, je suis désolé.
Ouais, ouais, tu vois, ouais, Elise qui est par où, ouais,
Olivier Barou sur Oui FM à ce moment-là surtout, non ?
Oui, oui, Oui FM 91, et c'est là que j'ai rencontré le Baron Noir. Et c'est là que j'ai rencontré Cad. Et...
Qui était beaucoup plus maigre à l'époque. Hein.
Oh là 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 là, Baron Maigre, on l'appelait.
Vous faisiez le 6-9, et en fait, Cad faisait la tranche qui suivait.
Voilà, et on se passait l'antenne tous les matins, et ça a commencé par une minute de passation, puis 10 minutes, puis une demi-heure, et puis après, Bruno Delporte nous a dit...
C'est pas les années où tu y étais aussi, Daniel ?
Non, moi, 80. 17.
Ouais, on était parti, on s'est pas croisé, Daniel.
Vous êtes évité même carrément.
Ouais.
Et donc la passation de d'antenne.
Ouais, va donner une émission à la fin. Bruno nous a dit on va vous réunir et puis on a fait le 6-9 pendant 5 ans sur WFM à la radio et en public comme ici. Voilà, c'est une belle et grande aventure.
Et ça c'est la rencontre, vraiment.
Ouais, la rencontre, bah oui, parce que après ça nous a amené à la télévision avec Jean-Luc Delarue, au théâtre et puis sur Comédie et puis Comédie Dominique Farrugia et puis Kia Tu peux mettre la rose et puis notre la porte d'entrée vers le cinéma. Donc ouais, c'est une rencontre. Très importante.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Quand je pense à tous les deux, je pense à une référence que j'ai trouvée, que vous partagez, une référence en commun dans vos interviews. Écoutez.
Je suis tombé en cinéma voulant fabriquer des films. Et voilà, et que, ok, acteur, mais prendre le métier d'acteur comme un métier manuel du cinéma, comme un autre.
C'est Mathieu Amalric à ce micro qui nous décrivait sa conception du métier d'acteur. J'ai l'impression que vous pouvez vous reconnaître dans les propos que vient de tenir Mathieu Amalric, Félix.
Bah écoutez, là où...
T'as à dire oui là maintenant.
Bah non, mais en tout cas c'est quelqu'un qui me stimule et qui me donne envie de faire des films depuis que je suis tout petit, de fabriquer des films. C'est un artisan incroyable dans le cinéma, moi je trouve. Et puis quand on voit Barbara, qui a un film merveilleux, il a une telle foi dans ce qu'il fait, parce que on sait pas vraiment ce que ça raconte, c'est complètement baroque et illuminé. Et
c'est mise en abîme, mais c'est tellement bien.
C'est fou, c'est génial, c'est vertigineux ce film. Ouais. Et il est moi c'est quelqu'un qui me stimule et qui me donne envie de faire des films. Et je trouve que c'est ça les bons réalisateurs ou les bons acteurs, c'est ceux qui donnent envie aux autres de fabriquer aussi des films. Voilà.
Et quand je pense à vous aussi, Laetitia, je pense à cette folie qui anime Mathieu Amalric. Je vous ai vu sur scène au Festival d'Avignon, dans les Serres Vidées, aux côtés de Jonathan Capdevielle. Les corps vidés aux côtés de Jonathan Capdevielle.
Jeune femme, jeune fille, Serres Vidées, corps vidés.
Et en fait, il faut quand même expliquer le truc, c'est qu'on arrive sur scène, on va s'installer dans le public, et il y a deux corbeaux sur scène. On vous voit pas.
Corbeaux, ouais.
On vous voit pas, vous, les comédiens. Et en fait, les corbeaux...
Parle. On les double. En fait, on a en coulisses une caméra, on a un écran. Dis donc, t'as vu la gueule des gens ce matin Et donc on
vous faites super bien le corbeau.
Et non, mais ils le font très très bien.
J'ai
imaginez,
rarement entendu un aussi beau corbeau.
On est au Festival d'Avignon, donc il y a un public qui est un petit peu spécialisé, on va dire comme ça.
Encore
et
beau.
Les cinq premières minutes, en fait, les gens s'installent, ils se font insulter un petit peu de partout. En gros.
Voilà, les spectacles se font insulter, parce qu'ils voient tous les spectacles en plein air, les corbeaux, donc ils vont voir tous les spectacles de les
départs. Ah bah dis donc, je me suis encore tapé une daube, les papes, hein.
Et là, c'est de l'impro.
Oui, c'était de l'impro qu'on faisait tous les deux avec Jonathan Capdevielle, c'est ça.
Et c'était absolument dingue, et puis après, vous arrivez sur scène et vous incarnez un couple de vampires quand même, faut expliquer que c'est des vampires, comprendre que c'est des vampires, elle t'explique qu'elle va à la salle de sport et qu'elle a sucé un tel. Et donc tout le public était là, à Avignon, je vous rappelle, les gens sont comme ça, un peu interdit. Il y a des gens qui commencent à rire.
Ça fait un mois que j'ai pas sucé, je disais.
Voilà, c'est ça.
Mais parce que c'est une vampire, donc elle a besoin de
manger.
Oui,
mais au début, on ne sait pas.
Et ça a été un choc, mais absolu, cette pièce. Je crois que vous avez fait l'événement de cette année-là du Festival d'Avignon.
Parce que les gens, ils ne savaient pas. Disons qu'en fait, c'est une autobiographie, personne ne s'en rend compte. Et ils disaient, mais c'est pas possible de dire autant de bêtises et d'horreurs sur scène. On était très chic, j'ai des robes de grands couturiers. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils ont pas honte. Et du coup, le fait qu'on n'ait pas honte faisait que ça devenait un truc artistique.
C'est
cool.
Ça. Il y avait un vrai décalage.
C'est un plaisir, ça, de choquer. Il y a, quand on est sur scène, d'avoir un texte qui provoque des troubles.
C'est pas, alors. Oui, mais c'est pas forcément de choquer par des gros mots ou par des bêtises. Ça, j'en fais beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Ce que j'aime bien, c'est que troubler, que les gens, ça les remette en question, qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que c'est par rapport à ma vie, qu'est-ce que ça me fait, et qu'ils aient pas tous les mêmes avis. Ça, j'aime bien aussi.
Félix?
Quoi? Bah là je peux pas rajouter des trucs sur bah ce que si. Dire
Laetitia. Non, bah pourquoi vous venez si vous pouvez pas rajouter des
non,
trucs?
Non, moi j'ai pas le j'ai pas le désir de choquer moi en tant que
de faire réfléchir, de créer des débats.
Évidemment, ouais. Moi je pense que les films sont là pour être aussi des clés de compréhension de ce qu'on vit.
En parlant, vous êtes pas rendu compte mais Laetitia, vous a
bouffé mon gâteau.
Non,
je l'ai évidemment.
Il y a une autre expression, c'est vous a pris le chou. Ah. C'est un peu ce qui vient de se passer.
Majeur quand même.
Ah d'accord.
Quand même drôle ça.
Mauvaise vanne. Ah bon, ok, d'accord. Okay. Bon, bah, je retiens.
Moi, j'ai trouvé que c'était très drôle.
Mais ça pas vrai.
Ah ouais, elle t'a pris le chou, non?
Non, j'aurais pu la faire, donc.
C'est gentil. Ah voilà. Une question sur.
J'aurais pu lui bourrer le chou? Ah non.
Non, lui prendre le chou.
Bourrer le chou. Je suis désolée. Que tous les auditeurs m'excusent.
La bande originale, les meilleurs moments. Sur France Inter.
Vous êtes bien dans la bande originale sur France Inter, mais vous serez encore mieux après Raphaël qui chante Les gens.
Les gens sont fous, les gens sont sans histoire, ils s'embrassent dans le noir, les gens s'endorment sous les gens se disent tout, et puis plus rien du tout, ils dorment un peu moins tard, ne dorment plus du tout. Tu n'es pas comme eux, toi, toi. Tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier. Jamais oublié, toi. Tu n'es pas comme eux, toi, toi, toi. Tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier. Jamais oublié. Les gens sont fous. Ils regardent les étoiles. Et puis, tirent en l'air. De revolver, les gens se conduisent mal, ils achètent le journal, trouvent que le monde va mal, que tout est immoral. Et toi, toi, tu n'es pas comme eux, toi, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Tu n'es pas comme eux, toi, toi, tu n'es pas comme eux. C'est sous l'olivier, jamais oublié. Jamais oublié. Les gens sont fous, les gens sont sans histoire, les gens sont dérisoires. Et compte plus que tout. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier. Jamais oublié. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier.
C'était Les gens avec Raphaël. Attention, attention, je crois voir arriver Guillermo Guiz. Ah oui, oui, c'est bien lui. Mon Dieu qu'il est laid.
Oui. Bonjour les amis.
Ouais. Bonjour. Bonjour.
Alors hier matin, je construisais mon char pour la Gay Pride. Quand soudain...
Mon char, oui.
Quand soudain, je vous le donne en mille, qu'est-ce que j'entends aux informations populaires radiodiffusées en français moderne? Je sais pas que Dominique Voynet, ben, en fait, elle est devenue pilote de karting. Non, pas du tout. Bien essayé. Moi aussi, non, mais je m'inquiète. Qu'en est-il de Dominique? Que fait-elle? Où en est-elle? Qu'a-t-elle choisi comme défi finalement dans sa vie? On ne sait pas. Non, en fait, j'ai entendu dire que le chef étoilé Sébastien Bras avait renoncé à ses 3 étoiles.
Oui,
Michelin. Ouais. Après, on s'étonne que la France gagne rarement des guerres. Pas vrai, Maréchal?
Affirmatif.
On est bien d'accord. Il y a des restaurants qui tueraient pour entrer au Michelin, vraiment. Regardez le McDo de la Gare de l'Est, par exemple. C'est vrai, je connais bien le chef et tout. Je vais là manger neuf fois par semaine là-bas avec Leïla. Bah, c'est le premier McDo, en fait, qui a servi un vrai hamburger de viande en 2011. Mais le Michelin veut pas lui lâcher son étoile. Soi-disant parce que le ragondin, ça compte pas dans les viandes steak. Après, je comprends, c'est une grosse pression d'être dans le Michelin. Tu dois être au top en permanence. Regardez-moi, je suis dans le classement Télérama des 15 spectacles à voir éventuellement à Paris si vous trouvez 20 € par terre et qu'à la télé il y a rien à part une pièce de Francis Perrin, le tirage du Keno. C'est un super classement, vraiment, c'est un peu le Michelin des humoristes. Je suis 9e dans le classement, juste devant moi il y a Jean-François Derek. Il y a un prestige. T'es obligé de tenir ton rang du coup, alors que parfois t'es pas bien. La veille tu t'es fait larguer par ta meuf via la messagerie du Bon Coin. Tu vois, c'est vrai, dans une réunion de famille t'as découvert qu'en fait Laurent Wauquiez c'est ton cousin. Tu vois, c'est un truc horrible, quoi. Nagui s'est moqué de toi parce que t'avais pas les habits de marque. Ah, la honte, ton pull a coûté moins de 200 euros. Enfin, on les connaît, ces douleurs. On les vit tous les jours, ces douleurs. C'est vrai, il y a des soirs où t'as pas envie de rire, t'as juste envie de crever dans un djembé. C'est vrai. Ça doit être, pareil pour Sébastien Bras à son petit niveau, là. C'est vrai, il a 3 étoiles depuis 2009. Ça veut dire que depuis 2009, il est à bloc pour pas décevoir les gens. Tout ça parce que dans le Michelin, il y a écrit que si tu vas dans son resto bouffer ta feuille de salade roulée façon bédo, sur velouté de pantoufles en croûte de fil de pêche, t'en auras pour tes 400 balles pinard et vestiaire compris. Alors que parfois, le chef, c'est juste un humain. Ce soir-là, il a peut-être pas la tête à ça. Il a peut-être juste envie de te servir un spaghetti cuit 16 minutes avec son pot de Lidl dans son assiette creuse de la veille, suivi de son émincé de si t'es pas content, tu vas te faire mordre le cul. Ça peut arriver. Mais c'est vrai, ça peut arriver. Alors sérieux, en plus, la Top Chef reprend ce soir. Il y a encore un pauvre mec qui va se faire humilier devant la France entière parce qu'un de ses chromeski choucroute pain d'épices manque un poil de croquant. Suivi de follow your dream, Jean-Cédric. C'est vrai, putain, mais laissez les gens respirer, quoi. C'est pas naturel de se mettre autant la pression. Quand t'es cuisinier ou quand t'es artiste, je dis pas quand t'es chirurgien par exemple. Là c'est pas pareil. Genre, je me suis fait opérer mardi passé. J'aurais trouvé ça moyen vraiment que mon chirurgien. Je sais pas. Je vous préviens direct. J'étais pas dans un bon jour.
De quoi ?
Je vous ai pris un rein. Ça va pas vous aider pour votre tendinite. Mais si vous avez 2 heures à tuer la semaine prochaine, limite je vous le remets. Sinon on vous le revendait Hugo Frey. Bah, j'ai, non mais s'il y a bien une profession, il faut un guide Michelin. C'est les chirurgiens. T'imagines le docteur Marc Lagrange vient de recevoir sa 3e étoile pour le combo ablation de la plèvre, agrandissement de la tube. Son opération signature, avec Daniel Morin qui témoigne masqué dans le JT. Oui, c'est la 6e fois que je me rends chez le docteur Lagrange, c'est toujours un enchantement. Il est même plus obligé de toucher à ma plèvre. Fantastique. Mais non, faudrait pas un guide Michelin des chirurgiens parce que c'est une tare de l'humanité de vouloir toujours mettre ses membres en compétition. Fuck la pression et vive Sébastien Bras. Allez, bonne émission.
Ouais.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
Gérard Jugnot et Isabelle Mergaux, merci d'être venus dans la bande originale et merci surtout à Gérard d'avoir convaincu Isabelle Mergaux. Je crois qu'elle n'était pas très partante pour venir ici.
Non, elle peut pas encadrer Nagui. Elle s'est détendue. C'est super, mais c'est.
Ah, c'est gentil, vous savez, c'est un petit studio de radio classique.
C'est à toi tout ça.
Non, c'est à Nagui. Vous savez, c'est très grand parce que le matin il vient en hélicoptère.
Tu crois qu'on peut faire ça, nous ? Une dépose dans l'hélicoptère ?
Qui vous dépose en hélicoptère ? Oui, je sais pas, faut lui demander. Oui, peut-être. Mais vous avez pas une voiture ?
Eh ben moi, à chaque fois que je passe la seconde sur ma 504, j'ai les pignons qui craquent. C'est pas grave, docteur.
Bah, je suis pas garagiste. Oh, Nagui, Gérard, il a encore une 504.
Vous n'auriez pas 5-10 balles ?
Oh, en plus, il fait la manche. Non, mais non, j'ai rien, Gérard. Mais je vais pas demander à Nagui, il a toujours de la monnaie pour un café.
Alors, je vais pas vous mentir, c'est pour m'acheter une shopping.
Oh là, en plus, il est alcoolique. Oh là là.
J'aimerais raconter un truc qui va te faire marrer.
Oui, je vous écoute, Gérard.
S'il vous plaît, un pesto, c'est parce que ça empeste ?
D'accord. C'est quoi qui est marrant ?
Bah, écoute, ça suffit maintenant, on se passe de tes commentaires. Hein.
Non, mais vous me dites, je vais te raconter un truc qui va te faire marrer, c'est pas drôle. Donc,
je m'excuse.
Bah oui, mais par exemple, Christian Clavier, il avait des blagues beaucoup plus drôles. Quoi.
Te casse pas, on a compris.
Non, mais je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai que même quand il était venu, Thierry Lhermitte était plus marrant. Donc,
on va me passer sur le tapis ou je te fous une danse que tu t'en souviendras.
Bah, vous me demandez, je vous dis.
Bah, je vais te raconter un truc qui va te faire marrer.
Oui, je vous écoute toujours, Gérard.
J'étais obligé de passer la nuit avec cette femme charmante au sanitaire.
La dame là-bas en rose, mais c'est un monsieur. En plus, vous avez l'air fatigué.
J'ai passé une nuit épouvantable avec une connasse aux chiottes, alors.
Oui, bah, faites attention à votre vocabulaire. Hein. Vous êtes quand même sur France Inter, c'est pas le sujet. Mais...
Le sujet, monsieur, vous êtes chez moi.
Oui, bah ça va, tout le monde paye la redevance. Vous êtes chez vous, je suis chez moi, on est chez Nagui. Nagui est chez Nagui, alors ça va. Hein. Et vous allez me parler sur un autre temps, Gérard.
Et
hein,
c'est ça... quel étage C'est quel étage ?
L'étage de quoi ? La direction, bah, c'est au 22e. Voilà.
Y'a pas marqué Alpinis là ?
Oui, vous voulez pas que je vous prenne sur mon dos pendant que vous y êtes ?
Alors que bientôt ça va être de ma faute.
Ah bah d'accord, bah si c'est pas de votre faute, c'est quoi ? Ça va être de ma faute, c'est ça ?
Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre que ce soit de ta faute, pauvre con ? Fallait pas nous emmener là ! On est dans la merde à cause de toi, qu'est-ce que tu trouves à faire ? C'était juste pour te monter sur ton sort !
Mais dites ça à votre attaché de presse, quand il prépare la tournée promo, il doit bien voir qu'ici c'est un traquenard. Eh ben c'est d'un ton, il y a mon frère qui est dans le public.
T'as rien à foutre, c'est une gonzesse ton frère.
C'est pas une gonzesse. Il adore Étienne Dao.
Quelle différence, mec là ?
Ah, qui ça ? Lui ? Ah non, pas lui, c'est Daniel Morin. Non, ça
va. C'est toi qui fais des jolis cendriers en rotin ?
Oui, c'est lui. Ouais, vous avez pas lui acheté un cendrier, ils sont à chier. Voilà.
J'ai fait ça pour vous rendre service, qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant ?
Bah je sais pas, on va le laisser là, allez, je suis désolé Nagui, hein, moi je m'en vais.
Hey gueule, Miss Monde, tu bouges pas, tu restes là.
Ouais, finalement, je reste, allez, bonne émission à tous.
Tu commences avec ce genre de film, tu termines direct dans un porno. Ils prennent des petites jeunes, ils leur font miroiter des alouettes, puis après ils les jettent.
À mon avis, c'est pas le moment de lui parler.
Ah non, c'est salaud, on a promis à la petite.
Toi, tu préférais quoi, par exemple, que ta fille, elle se noie, ou qu'elle fasse du cinéma ?
C'est complètement con comme question.
Papa, je suis comédienne. Je le sais, je le sens.
Il sait apprendre. Tu mets tout ça. Bouge-toi.
Tu délires, tu crois quoi ? Que j'ai passé ma vie dans ton bled pourri à mettre des rouleaux, à faire des régerges en petites vieilles ? Tu crois que ça m'excite ce genre de vie ? Une vie de con, oui.
C'est ma vie, je te signale.
C'est bien ce que je te dis.
C'est un extrait de Meilleur espoir féminin, un film que vous avez réalisé, Gérard, et dont vous avez écrit le scénario, Isabelle.
On a coécrit, mais je l'ai dialogué surtout.
Vous l'avez dialogué, ouais. Voilà, cette comédie, pour rappel, où un coiffeur est un peu estomaqué de découvrir que sa fille veut devenir comédienne. Mmh. Et finalement, c'est un premier mariage entre tous les deux.
Ah, c'était bien ce film, j'ai adoré.
Qu'est-ce qui a suscité la collaboration? Comment les choses se sont déroulées?
Moi, je connaissais Isabelle depuis longtemps. On s'était croisés sur des tournages quand on était jeunes. Et ensuite, j'avais vu un film qu'elle avait écrit. Et j'avais trouvé ça très sensible, à la fois très drôle et très très sensible. Moi, j'avais écrit un acte d'une pièce sur Meilleur espoir, et puis j'arrivais pas bien, et je lui ai proposé. Elle a tout cassé et tout transformé.
Auparavant, tu te rappelles, tu m'avais proposé Casque bleu, je crois.
Ah,
ça me plaisait pas comme sujet. Je t'avais dit non, je t'avais refusé deux sujets que je sentais pas.
Donc du coup, après, il s'était vengé quand il avait dit que votre pièce de la fois dernière était pourrie, c'est ça?
Non, si je le sentais pas, je peux pas écrire des trucs si je le sens.
Mais un sens du dialogue formidable. Moi, ce que j'adore, c'est justement ce rire qui cache un peu une mélancolie, un côté doux amer, comme on dit.
Ouais, c'est justement, en plus, le sujet du film a dû vous toucher, Isabelle Mergault. Votre rapport au métier d'actrice, vous nous avez déjà parlé ici dans la bande originale.
C'était dans le livre aussi, on a...
Qu'est-ce
que j'ai dit?
Un escargot tout chaud.
Ça dépend des jours.
Mais
j'ai pas des vérités.
Que c'était
pas
un métier
temps,
que vous aviez vraiment aimé, que c'était aussi un métier qui était pas évident, pas simple. Là, on voit le coiffeur, le père coiffeur qui se dit, tiens, je peux avoir des contacts dans le métier. Enfin, c'est vraiment une sorte de portrait d'un univers qu'on connaît assez peu.
Oui, et puis le côté insultant de aussi, je vais pas passer ma vie à mettre des bigoudis.
Oui, non, mais
sortir de son milieu social aussi.
C'était surtout les rapports d'une fille et d'un père. Plus que.
Joué par Bérénice
Bejo. C'était son premier rôle.
On l'a pas dit exactement.
Premier rôle au cinéma, mais ce qui m'intéressait, c'est ce sillon que je creuse depuis des années, c'est la confrontation entre l'ordinaire et l'extraordinaire. C'est ce père qui est totalement dans une vie normale, simple, qui voit sa fille partir dans les étoiles et qui comprend pas bien ça. Donc c'est ça qui moi me fait rire, parce que ça aussi un peu ma vie par rapport à mes parents, par rapport à mon père. Et moi, je viens d'un milieu modeste, simple, et j'ai été balancé dans une vie extraordinaire. Enfin, là, pas forcément géniale, mais...
Celle dont vous rêviez, en tout cas.
Hors de l'ordinaire. Ouais. Et donc, moi, je me souviens de cette scène que j'ai adoré faire, c'est quand il voit sa fille pleurer sur un écran dans une projection privée. Et c'est quelque chose qui est troublant pour pour quelqu'un de voir ça. Parce qu'il voit bien qu'elle pleure pour de faux. Mais il sait très bien qu'elle pleure aussi pour de vrai parfois, et qu'elle va chercher des choses, et donc ça l'estomaque de voir ça, c'est très troublant. Moi, je me souviens d'avoir fait un film qui s'appelait Marthe, où je mourais d'une très jolie gangrène gazeuse qu'on m'avait amputée après la guerre de 14, et il y avait mon fils qui était dans la salle, qui avait une vingtaine d'années, et bon, il voyait bien que je ne mourrais pas parce que j'étais à côté de lui, mais il sait très bien que je vais mourir un jour. Donc c'est le référent qui touche les gens dans le cinéma et dans le théâtre. Ils savent très bien que tout ça, c'est pour du faux. Et c'est là où j'ai compris la phrase de Cocteau. Le poète est un menteur qui dit la vérité. Voilà.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je sais, vous êtes vraiment bien dans la bande originale, mais je sens que vous serez encore mieux après Nerd et Kendrick Lamar. Don't do it. Fine.
face of Adolf Hitler, Greg Kiss laid off. Niggas, same rule, same truck, different decade, same law. Keep focused. You wanna get caught with your eyes open. You wanna stay clear of the prognosis. Pride provoke them, watch the motion. Watch them close enough to let the host up in corrosion. Roller coaster ride, that bitch. Sooner later, sides go switch. You know Johnny got that itch. How many more rush? Gotta see the corner. Slay by the play, bash, stop, wait.
Don't Do It de Nerd et Kendrick Lamar dans la bande originale. Contractuellement, il fait partie de la bande et parfois, il me fait même rire. Attention, attention, lui non plus n'est pas très beau, c'est Tanguy Pasturo.
Juppé, c'est l'anti-Macron, autant l'autre ne dort jamais, ébloui qu'il est de se voir en action, telle une pornostar qui matrait ses films afin de les juger au niveau technique. Autant Juppé ça dégage l'énergie vitale d'un hérisson mort le long de la 13. À Bordeaux, il fait partie des meubles, à tel point que la femme de ménage de l'hôtel de ville, le soir, lui met un coup de lingette. Elle s'étonne parfois d'entendre ce qu'elle avait pris pour une commode, murmurer « Oui, ça chatouille, c'est bon, plus bas. » Et à chaque scrutin, il est réélu maire, parce que les Bordelais le kiffent. Il a nettoyé la ville et a construit de nouveaux quartier. Il a la vie d'un castor portugais. C'est une star régionale, le Justin Bieber vieux de la Gironde. De connu dans le 33, il y a Patrick Chirac de Camping, le bronzage de Bernard Montiel et Juppé. Et son mojo ne marche que là-bas. Dès qu'il quitte Bordeaux, les gens s'en foutent de lui. À la primaire de droite, il s'était même fait battre par Fillon, le mammouth laineux de la Sarthe, roulé dans du velours. On aurait dit un rouleau de printemps fabriqué par Cyrillus. Juppé s'y drague une femme devant la mairie en lui disant « Tu vois bébé, ça c'est ma maison, on est sur du F40, c'est pas de la yourte de zadiste. » Et qu'il l'emmène se balader en voiture. Dès la pancarte de l'agglomération franchie, le charme se rompt. Et elle appelle les flics en criant « À l'aide, j'ai été enlevé par un monsieur tout rigide. 15 km qu'on roule, il a pas cligné de l'œil. Je pense que c'est une sculpture de Jeff Koons, son premier monochrome. » Bref, Juppé à Bordeaux, c'est le king, l'équivalent de Taylor Swift aux États-Unis, mais avec du poil aux jambes. Donc samedi, c'est donc dit « Tiens, je vais présenter mes vœux au quartier Saint-Augustin, un coin de Bordeaux juppéiste. Hein, mes fans m'attendent, ils sont chauds comme des planchats, on sait jamais, je prends des capotes. » Sauf que là, rapporte France 3 Aquitaine, la chaîne qui peut tenir 2 heures sur la fête de l'huître du Cap Ferret, 200 personnes furax attendent Juppé qui se dit « Oula, le peuple, cette masse grouillante qui devrait m'admirer autant que je m'admire moi, n'a pas l'air joasse. Hein, il tire la même tronche que celle que je fais depuis 72. Comment réagir ?» Donc là, n'importe quel élu sensé fuirait. Jurisprudence Louis XVI. On sait qu'une foule un peu en burn-out a vite fait de se prendre pour Cyril Lignac et séparer le gras du jambon sur l'élu. Mais Juppé, il se dit « Je suis chez moi, je bouge pas. Hein, » Il a l'état d'esprit de Saddam Hussein quand il s'est posé au Koweït en 90 à la cool avec ses tanks.
D'accord, mais que voulaient les 200 manifestants ?
Eh bien, ils protestaient contre l'extension du stationnement payant à Bordeaux. Avant, c'était gratuit, maintenant c'est payant. Soit le contraire des concerts d'Evangélie. Explication. Depuis peu, c'est une société privée, Urbis, qui contrôle le stationnement à la place des agents municipaux, hein, qui, eux, ont vu leur fonction évoluer. Ils jouent à la crapette et regardent BFM. Seulement, qui dit société privée, dit rentrée de brosouf. Hein, ils sont pas venus à Bordeaux pour lécher des cannelés. Donc, tout est devenu payant. Et ils alignent tout le monde. Ainsi, il y a un petit vieux en fauteuil qui fait une pause et lui dit « Ça fera 35 euros, papy, payable en espèces, chèque, CB, Paypal, Bitcoin, même tu donnes ton chat si tu veux, du moment que tu raques. » Donc Juppé est pris à partie par les manifestants, mais aussi son adjoint, un certain Jean-Louis David. Hein, il faut que ce soit le mec qui a perdu ses cheveux à 12 ans et demi qui bosse avec Jean-Louis David. Hein, en fait, Juppé est sans doute un énorme déconneur. Hein, quand la carrière de Tex est morte, elle est venue se réincarner en lui. Si demain une fille vient, lui dit « Je m'appelle Camille Alban » et lui signe un CDD de 112 ans. Donc Jean-Louis David dit bonne année à tous. Hein. Ben, il était temps, samedi on était le 27, hein. Donc en même temps il pouvait parler de 2019. Mais les riverains en colère sifflent, donc on n'entend rien. Juppé dit alors « C'est la 8e cérémonie de vœux que je fais, jamais je n'ai vu ça. » Les gens répondent « Bah c'est la dernière. » Personne à Bordeaux n'a encore parlé comme ça à Juppé. Ça équivaut à dire à la reine Elisabeth « Dis donc Maloute, t'as pensé à faire l'émission Relooking Extrême parce que là les couleurs, dès que tu passes à la télé, j'ai j'ai mon écran LED qui fume. Jean-Louis David, outré que Démanon parle ainsi à Juppé, le roi d'Aquitaine, dit à un manifestant, ferme-la un peu avant de le pousser. Le type tombe. Enfin, c'était une cérémonie de vœux gérée par un seigneur. Ça c'est se termine fou. En pogo d'un concert de Slayer. Donc là, Juppé se dit, mon Dieu, quelle violence. Des gens de la rue nous touchent. C'est affreux. Hein, il met fin au truc et se taille sans même taper dans le pain surprise. Hein, alors que si les mecs se font élire, c'est pour teaser et manger. Le reste, c'est nul. Hein, ça consiste juste à attribuer les différentes tâches de la municipalité à des boîtes privées qui vont saigner le gugus. En attendant, pour Juppé, c'est super. Il a été sifflé, bousculé. Jean-Louis David a poussé un type. Fini le centrisme mou et les SMS d'amour envoyés à Macron. À 72 ans, enfin, il est rock'n'roll.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Wow, en stéréo. Il y a la voix d'un côté, le piano de l'autre. J'adore. Quand vous entendez cette musique, vous vous revoyez dans, je sais pas, dans un appartement précis, dans une situation précise.
Je me revois en voiture. Ouais. On faisait des grands voyages avec mon père et ma belle-mère et ils écoutaient, entre autres, Paul Naref.
En boucle.
Non, Paul Naref, Aznavour, Véronique Sanson, Julien Clerc. Et donc je n'aime que les chansons de ces périodes-là parce que ça me rappelle mon enfance.
C'est joli.
J'écoute beaucoup moins Julien Clerc aujourd'hui, que j'aime bien, hein. Mais c'est vraiment les chansons La Petite Sorcière.
Il a beaucoup
mort,
baissé, hein, Julien Clerc, hein, maintenant.
Il est vachement bien. Oh.
Les vieux titres, mais là, il a beaucoup, beaucoup baissé.
Et en 80, Gwendoline, vous êtes au cinéma dans Loulou de Maurice Pialat. Le spectacle, le théâtre, c'est quelque chose qui est inscrit dans la famille depuis longtemps.
Voilà, oui.
Mais expliquez-nous quand même.
Parce que mes grands-parents étaient metteurs en scène pour ma grand-mère et auteurs dramatiques pour mon grand-père.
Nicole donc... Anouilh et Jean Anouilh.
Voilà, et j'ai mes parents ayant divorcé très
Jean
jeune.
Jean Anouilh, c'est un homonyme ou c'est Jean Anouilh?
Bah non, c'est Jean Anouilh.
Peut-être qu'elle a fait. Tu touches à ma famille.
J'ai peur, moi aussi.
Et donc j'ai grandi dans ce milieu, oui, et dans le théâtre. J'allais beaucoup au théâtre. J'adorais ma grand-mère et chez qui je vivais en partie, puisque mes parents avaient divorcé et que ma mère était très jeune et très fantasque. Donc c'était complètement naturel de faire ce métier pour moi.
Et nous, Jean Anouilh, on le perçoit comme l'auteur. Vous, comme le grand-père, quel genre de grand-père était-il?
Vraiment génial. Très, très honnêtement. Un homme libre comme. J'aimerais bien avoir un jour sa liberté. Un homme très simple, extrêmement gentil avec nous, les petits-enfants, les deux petites filles, mais un type avec beaucoup d'humilité et une très très grande liberté d'esprit.
Est-ce que vous l'avez suivi lors de ses mises en scène? Est-ce que vous avez...
Non, j'avais 17 ans quand il est mort, donc je l'ai connu, mais je n'ai pas beaucoup parlé de théâtre avec lui. Il avait très peur que la famille fasse ce métier-là. Il avait sa fille aînée qui avait été comédienne, ça ne s'était pas bien passé. Et il disait souvent, c'est un métier... Alors, entendez bien ce que je vais dire. Parce que c'est, il faut
il retirer ses doigts.
Non, mais
Jean Anouilh.
Il disait c'est un métier de pute au sens où il disait les acteurs sont obligés de se vendre tout le temps, de sourire tout le temps, et je veux pas que vous soyez là-dedans. Et il avait vu une petite photo de Loulou au cinéma La Pagode et j'étais sur la photo et il avait dit mais c'est pas Gwendoline. Non, et toute la famille lui dit non, c'est pas Gwendoline. Donc c'est mon grand regret.
C'est la fille d'Isabelle Huppert.
C'est mon grand regret, c'est de ne pas avoir parlé de théâtre avec lui, parce qu'on avait beaucoup de choses à dire.
Et comment on rencontre finalement un homme qui a marqué l'histoire du théâtre, alors qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter avec lui? On lit sur lui, après on se renseigne avec...
J'ai lu toute son œuvre, que je connais très très bien. Et puis comme ma maman est décédée il y a 9 ans, jeune, j'ai trouvé plein de papiers. D'abord, aujourd'hui, je m'autorise à parler de lui différemment parce que je me sens au-dessus, puisque ma mère n'est plus là. Et plein de papiers, c'est carrément une enquête. Je rigole pas, je découvre des trucs dingues. Et plus je découvre des choses, plus je me dis, mais le type était démentiel, en fait, de liberté. Il a refusé l'Académie française, la Légion d'honneur. Il disait à Jean-Louis Barrault, qui lui disait, viens à l'Odéon. Non, moi, je veux pas faire partie d'un clan ou devoir quelque chose à quelqu'un, notamment un gouvernement. Non, moi, je suis libre. Chiez-moi sur la gueule en parlant des critiques, c'est pas grave. J'avance, je fais. Le public est là, ça a été sa grande chance. Voilà. Mais il a jamais voté, il était traité d'anard de droite parce que
il avait signé un texte sur c'était quoi
Alors il avait signé ça, on lui a beaucoup reproché. Pourtant
Asiak,
Camus l'a signé aussi. Mais Camus, on lui en parle jamais.
On lui avait signé ça, expliquez-nous, signé quoi?
Brasillac, qui était un énorme enfoiré, qui était un jeune homme parce que je crois qu'il est mort à 29 ans, directeur de la rédaction d'un journal collabo qui s'appelait Je suis partout, mais qui était avant
un auteur et dramatique et romancier, écrivain, très connu à l'époque, ouais. a été condamné à mort par De Gaulle parce qu'il avait tenu des propos antisémites dans son canard. Et Anouilh et d'autres de l'intelligentsia de l'époque, voilà. exactement, je crois
Colette,
qu'il était 56.
Colette, Claudel, Camus...
Colette, Camus, d'accord.
Claudel, okay. Camus, Barrault, justement. Et même, je crois, un monsieur Lévy. Je le dis parce que je pense que les gens à cette époque-là disaient on ne tue pas quelqu'un pour ses écrits. Donc le truc c'était mettez-le en tôle si vous voulez, mais on ne tue pas un intellectuel. Et donc De Gaulle a décidé de le faire fusiller pour donner l'exemple probablement, parce que je crois que Mauriac est allé essayer. Et donc Anouilh a porté ça, moi longtemps on en a parlé.
On lui a reproché d'avoir signé pour,
entre guillemets, un collabo. Ouais,
d'en faire un nanar de droite.
Alors que sa fille
alors
aînée...
Alors que c'était simplement une défense, c'était plutôt contre la peine de mort.
C'était vraiment un truc de libre, c'était comme Voltaire.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Si vous êtes sage et que vous ne bougez pas, je crois que Frédéric Segris va vous raconter des blagues. Enfin, je crois. J'espère.
Bonjour à tous. Alors ce week-end, on est allé manger chez des amis, ma femme, mes enfants et moi. Des amis qui ont bien évidemment des enfants eux aussi, hein, car c'est un peu une règle tacite entre individus. Hein, en fonction de son âge, on assiste à une ghettoisation des rapports humains. Hein, les célibataires fréquentent des célibataires, les parents fréquentent d'autres parents, et Albert, lui, va à des enterrements. C'est le cycle c'est naturel
vrai.
De la
c'est
vie.
C'est vrai, fréquemment en ce moment.
On se mélange Tristesse. Rarement. Par exemple, la dernière fois que j'ai proposé à Leïla de venir manger à la maison dans le 91, elle s'est mise à pleurer et m'a dit « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Donc samedi dernier, on était chez des amis.
C'est enfin, loin, c'est loin. Bah, pas parce qu'elle a peur d'aller. C'est loin.
Oui, c'est loin. C'est loin. En plus, en ce moment, avec le RRC, c'est compliqué. Voilà. Bref, quand je dis des amis, disons plutôt des co-détenus incarcérés dans la même cellule familiale. Ah, ça se passait très bien, l'ambiance était bonne, ils avaient la playlist France Inter et ils avaient eu le bon goût de ne pas la mettre. Bref, tout allait extrêmement bien. Et soudain, on a entendu des pleurs, une dispute, et ma fille de 4 ans a débarqué en larmes. Rien de grave, hein, des histoires d'enfants. Il m'a piqué mon shit, elle veut pas prendre la pilule du lendemain. Enfin, rien de bien méchant. Et là, le père de famille, donc notre pote se lève, il prend son fils d'une main et de l'autre, mais sans qu'on ait le temps de dire ouf, il lui a flanqué une fessée de bûcheron, 50 nuances degrés dans sa version Père Albert. Alors évidemment, grand moment de gêne, hein. Vous voyez comment on tapote le cul des bouteilles de ketchup pour faire descendre. Et ben là, le pauvre gosse, à ce moment-là, je crois qu'il aurait envié la bouteille de ketchup. Il l'a lâché, il a envoyé le môme dans sa chambre et a repris la conversation comme si de rien n'était, hein, complètement détendu, au calme, Christian Bale dans American Psycho. Le mec, il vient de confondre son fils avec un tapis, hein, et il veut qu'on continue à manger nos blinis comme si de rien n'était. Alors il a dû sentir qu'on avait un peu tiqué, hein, ça où il a vu ma femme prendre son manteau. Il nous a dit,
c'est un signe.
Il nous a dit comme pour se justifier, oh, il faut comprendre, il est insupportable en ce moment. Ce à quoi j'ai eu envie de répondre, bah pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Dans ce cas, viens, j'ai une barre de fer dans le coffre de la voiture, on va le terminer dans sa chambre si tu veux. Il a ajouté, mais moi aussi je me suis pris des fessées quand j'étais petit, j'en suis pas mort. Mais en voilà une phrase qu'elle est con.
C'est la grande phrase de ça.
Non mais en voilà une phrase qu'elle est con. Oh, j'en suis pas mort. Mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans la vie ? Oh bah tout ce qui tue pas. Avec une philosophie comme ça, le code pénal, ça tient sur un post-it. Hein. Rouler bourré, bah pourquoi pas, j'en suis pas mort. La drogue, bah pourquoi pas, j'en suis pas mort. Coucher avec Daniel Morin, bah pourquoi. Non, déconne, déconne. Ça c'est dangereux. Alors attention, ça m'a choqué, mais uniquement parce que finalement, j'étais pas le père de ce gamin, j'étais pas à sa place. Parce que finalement, c'est hyper facile d'avoir des grands principes quand c'est pas ton gosse. Si ça se trouve, le gamin au quotidien, c'est Chucky. Hein, il mord les chiens. Son visage dans la rue, il parle même à Satan en araméen. Effectivement, ça ne justifie pas, mais aussi. Ça permet de comprendre le contexte. Des fois, dans la rue, tu croises des pères ou des mères de famille, leur gamin, il hurle en se roulant par terre, t'as l'impression de voir un joueur de foot qui croisait avec un supporter. Et t'as toujours une petite vieille qui passe par là en hochant la tête, elle le regarde, ah, c'est pas possible. Tu sens que là, c'est pas qu'un gosse, c'est tout le laxisme du 21e siècle qu'elle est en train de juger. Et moi, dans ces moments-là, j'ai toujours envie de me transformer en Éric Dupond-Moretti, vous savez, l'avocat. J'ai envie de dire, attendez, madame, pas de conclusion, hein. De nombreuses pièces n'ont pas été versé à l'affaire, et puis nous on élève peut-être mal nos gosses, mais on n'a pas collaboré avec les Allemands. Et bim ! Voilà ! Le problème, c'est que quand t'as été victime de violence quand t'étais gamin, et ben sans que tu le veuilles, t'as tendance à reproduire. Moi par exemple, je l'avoue, hein, mon père était violent parce qu'il avait été élevé comme ça. Ah, pour lui, une ceinture, ça tenait les pantalons et les enfants. Et je sais pas si les pères qui portent des bretelles ou des pantalons taille basse sont plus affectueux. Hein. Mais moi, mon père, il avait une ceinture. Bon, bah aujourd'hui, je sais qu'en cas de stress ou quand je suis en face d'un con, il m'arrive encore assez régulièrement de me retrouver en carence de vocabulaire. Et de ponctuer certaines de mes conversations entre adultes d'un point non pas final mais dans la gueule. Et la violence chez moi, c'est comme les vêtements improbables chez vous, Nagui. Si on cherche, on en trouve beaucoup plus vite qu'ailleurs. Alors je le déplore, hein, je travaille là-dessus, mais je sais d'où ça vient. Il y a des gens, quand leur télévision à tube cathodique fonctionnait mal, ils avaient toujours ce réflexe, ils tapaient dessus, hein, pour la refaire marcher. Bon, aujourd'hui on a inventé les écrans plats, donc ils font plus gaffe. Mais malheureusement, on n'a pas encore inventé les enfants plats. Tout ça pour dire qu'en attendant, ça serait bien d'éviter de claquer les enfants qu'ils ne méritent pas quand il y a tellement d'adultes pour lesquels il y a des claques qui se perdent.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
On arrive au climax de l'émission. Il est là, il est beau, j'aimerais tellement être lui. Ah bah ça tombe bien, c'est moi. Vous l'avez entendu aux infos, c'est un peu la journée des petits vieux, ces jours de mobilisation dans les EHPAD. Les EHPAD, ces sordides mouroirs où d'indignes enfants placardisent leurs aînés pour s'en débarrasser, vivre la Dolce Vita, ces petits connards égoïstes. Eh bien, ça doit cesser tout ça. Oui, ces comportements nombrilistes qui poussent à placer les aïeux sur une voie de délestage qui les amènera doucement mais sûrement vers la mort. Sachez qu'une personne âgée, si elle est entourée, si on lui parle, si on la stimule intellectuellement, eh bien elle sera heureuse, c'est sûr, mais en plus elle se sentira bien et sa santé ira en s'améliorant. Regardez ici, on a gardé Nagui avec nous, il se porte comme un charme. Bon, il continue d'aller aux toilettes à midi et demi alors qu'il urine à midi, mais ça... C'est la nature, il n'a plus de sensation au niveau de la vessie, alors ça sort un peu comme ça veut, mais sinon il est impec, Nagui. Bon, chaque matin, il faut qu'on refasse les présentations de l'équipe, vu qu'il oublie les noms et les visages toutes les 3 heures, mais ça c'est la nature, on peut pas lutter. Enfin bon, ça va, on passe la montée non plus. Aujourd'hui, dans la bande originale, nous avons même de quoi nous réjouir. Aujourd'hui, Olivier Barou, Jean-Paul Rouff sont nos invités. Super, c'est vrai, mais on s'en fout. On a beaucoup mieux. On a beaucoup mieux pour vous aujourd'hui, amis auditeurs du service public. Aujourd'hui, et en avant-première, nous allons vous dévoiler la bande-annonce des Tuches 4. Vous les avez adorés à Monaco dans les Tuches 1. Vous les avez kiffés en Amérique dans les Tuches 2. Vous les avez respectés à l'Elysée dans les Tuches 3. Vous leur direz merci dans les Tuches 4. Dans les Tuches 4, changement de décor. Jeff Tuche devient président. Oui, mais pas n'importe quel président. Il devient président de Radio France. Changement d'ambiance garanti dans le service public. Son entretien avec le CSA fut aussi original que brillant.
Jeff Tuche, quels sont vos projets pour amener Radio France vers un futur plus riche de contenu avec des moyens financiers plus pauvres?
Bah, écoute, je vais dire, c'est très simple. Alors, ce que je vais faire, pour commencer, je garde que France Inter. Tous les autres radios, je les bazarde sur Internet. Économie 80% par rapport à l'année dernière.
Et vous faites quoi pour France Inter?
Change tout! Déjà, fini les chansons qu'il faut chialer. Fini là, les films partenaires qu'il faut chialer. Fini les animateurs qu'il faut chialer, suivez mon regard. De la rigolade, c'est ça que je veux. Et c'est ça que la France, elle veut aussi.
Quelle sera votre première mesure si vous êtes nommé président de Radio France?
Alors déjà, en premier, je vais rechercher Patrick Cohen.
Ça va être compliqué, il vient de signer sur Europe 1.
Bah bien sûr, c'est pour ça que je veux le reprendre. C'est ce qu'on appelle une opération humanitaire. Je le sais que sur Europe 1, il est malheureux comme une pièce en mousse. Il a 24 auditeurs. Le pauvre, 24. Lui qui en avait des milliards ici. Il n'y a plus que 24. Faut faire quelque chose.
Bien, ben Patrick Cohen, vous avez d'autres projets?
Plein.
Merci, Jeff Tuche.
Avec plaisir.
Fort d'un programme complet, c'est donc à l'unanimité que Jeff Tuche est nommé président de Radio France. À peine nommé, Jeff se plonge dans la grille des programmes de France Inter.
Bon, alors, Augustin. C'est quoi ton émission?
Mon émission, c'est Boomerang. Je reçois ce qui se fait de mieux dans le monde de la culture.
Pourquoi tu fais ça, Augustin?
C'est pour éclairer l'auditeur.
Mais pour s'éclairer, Augustin, l'auditeur, il n'a pas besoin de toi. Il a juste besoin d'une ampoule. Ah, toi, t'es pas une ampoule?
Non.
Bon, bah t'es viré, Augustin. Suivant. Oh non, c'est pas vrai, Nagui.
Oui,
c'est pas
oui.
Possible, mais oui, qu'est-ce qu'il fout là?
Bah, je suis là.
Bon, mais Nagui, oui. Ici, tu travailles ici dans une radio intello?
Bah oui.
Mais mon pauvre, tu dois pas te sentir à ta place. Toi, c'est tout ce qui est le karaoké et tout ça. Non, j'adore ton émission, n'oubliez pas les paroles. Mais c'est bizarre. Et les gens, tu leur dis, n'oubliez pas les paroles, et ils viennent, ils oublient tout le temps. Dis-là, apprends les paroles avant de venir, enfin. C'est complètement con. Vas-y, je sais pas les paroles, comment ça s'appelle ton émission? N'oubliez pas les paroles. C'est écrit. Bon, bref, revenons à nos moutons.
Pour en venir, si, je me sens très à ma place, tu sais, ici.
Bon, mais tu te sens à ta place? Tu te sens à ta place, mon ami?
Ouais.
Bon, bah tais-toi, je t'explique. Si tu t'appelles Nagui, t'es une star de la télé. Si t'es une star de la télé, tu portes du maquillage. Si tu portes du maquillage, tu portes des robes. Si tu portes des robes, t'es une fille. Si t'es une fille, tu gagnes 25% moins que les gars. Si tu gagnes moins que les gars, t'es de mauvaise humeur. Si t'es de mauvaise humeur, tu grognes. Si tu grognes, bah tu transpires sous les bras. Si tu transpires sous les bras, tu sens fort. Si tu sens fort, ça excite les chiens. Si les chiens sont excités, ils deviennent tes amis. Si t'es ami avec des chats, tu deviens chef de meute. Si t'es chef de meute, t'habites dans la forêt. Si t'habites dans la forêt, y a pas de radio. Et s'il y a pas de radio, t'es au chômage.
Et alors?
Alors t'es viré. Suivant. Oh non, oh non de Dieu, que c'est quoi ça?
Bonjour, je m'appelle André Manoukian.
C'est fou ça. Tu ressembles à une bête sauvage. Et puis tous ces poils qui envahissent ton corps, c'est fantastique. On dirait une loutre qui aurait mis un t-shirt.
Merci, ça me touche beaucoup.
Mais de rien, surtout qu'ici c'est pas un zoo. T'es viré. Suivant.
Salut, je m'appelle Jacqueline, j'ai plein de projets pour la radio.
D'accord, des projets, ok, mais quoi?
Tous les matins, je vais faire l'horoscope.
Ah, là tu m'intéresses, mon Jacqueline, continue.
Ouais, alors, je fais l'horoscope parce que l'horoscope c'est indispensable pour savoir comment elle va être ta journée. Si tu vas gagner de l'argent, si tu vas pas crever, si tu vas faire une rencontre qui va déboucher sur un acte sexuel avec consentement mutuel, tout ça quoi.
Mais c'est super, mon Jacqueline, j'adore, quoi encore?
Alors je vais organiser des débats sur des techniques de survie.
Bien.
Comment donner la mort à un ennemi dans un parking, dans un supermarché.
Très bonne idée.
Et aussi, comment faire un cocktail avec l'eau de Javel et des Ricards.
Mais non.
Ou comment couper une jambe à un animal sans qu'il s'en aperçoive. Lofi,
c'est exactement ce que je cherche comme programme. Ouais. Je t'embauche, mon Jean-Ki.
Putain, tu vas pas le regretter, président. Et je fais quoi comme tranche sur le gris?
Écoute, tu vas faire le 7h-23h.
Est-ce que Jeff Tuch, le nouveau président de Radio France, ce sera lui? Va-t-il réussir sa mission et faire exploser les audiences du service public? C'est bien parti, mais vous saurez tout en allant voir Tuch 4. Jeff Tuch, président de Radio France.
Exactement.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. Un meilleur réalisé par Marie-Annick Rimbaud. Allez, on se retrouve demain, même endroit, même heure. En attendant, petit rendez-vous avec Feu Chatterton, Ginger.
Quel est ce parfum que le vent dépêche? On dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer l'indocile. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en. Mon cœur est un pendule. Mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre, mon cœur, sous le ciel noir de cendre. Oh, Ginger, la montagne vacille. Oh, Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin, cours, allez, vas-y. Que l'enfer entier est à notre route. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là, quelque part, non, ne te retourne pas. Viens vite, suis-moi, mon cœur. Les chiens sont à nos talons, mais la jetée n'est plus loin. Oh, Ginger, le sol sous nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. Mon cœur, l'espoir nous fait un signe. Oh Ginger, nous serons loin d'ici. Dans une heure, si tu le veux, sauve-toi. Allez, vas-y.